Deux invités dans le grand entretien de la matinale pour évoquer ce continent qu'est la médecine prédictive, celle qui permet de prévoir longtemps à l'avance des maladies qui pourraient frapper un patient. Sur le papier, ça fait rêver. Un congrès se tient aujourd'hui et demain à Paris sur le sujet, organisé par Pascal Pujol, chef du service oncogénétique au CHU de Montpellier. Deuxième invité d'Inter ce matin, Dominique Stoppa-Lyonnais, professeur de génétique à l'université Paris-Descartes et responsable du service de génétique à l'Institut Curie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nicolas Demorand.
Et bienvenue dans le studio d'Inter. Pascal Pujol, expliquez-nous pour commencer, très simplement, comment ça se passe. Si je suis patient, que je vous croise pour un problème ou un autre, comment et à quel moment allez-vous me dire « Ah voilà, vous avez telle ou telle probabilité de développer cette maladie, ce cancer ?» À quel moment? Comment ça se passe?
Si vous êtes patient, peut-être allez-vous avoir dans votre démarche diagnostique une analyse génétique. Et aujourd'hui, l'analyse génétique est de plus en plus large. Et comme un scanner avant, cette analyse génétique peut déceler dans nos gènes une probabilité forte d'une maladie pour laquelle on a des stratégies de dépistage ou de prévention utile et efficace.
Voilà, ça c'est important. C'est les maladies qu'on peut traiter, c'est pas toutes les maladies.
Il faut absolument avoir cette équation remplie. D'un côté, une prédiction d'un risque fort et grave, et de l'autre côté, une action possible en médecine. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors on n'est pas dans une médecine aujourd'hui praticable.
Dominique Stoppa-Lyonnais, c'est formidable quand on entend ça, non ?
Le concept de médecine prédictive est en fait assez ancien. On le doit à Jean Dosset, vous savez, qui est notre prix Nobel de médecine, qui a fait un lien entre certains, je dirais, groupes tissulaires, et il a créé donc ce concept avec l'idée de cette médecine prédictive, effectivement, que le fait de savoir doit diminuer l'impact de la maladie annoncée ou encore mieux l'apparition de la maladie, et avec derrière ce concept une notion de prise en main par les personnes elles-mêmes de leur futur médical.
C'est un gros sujet sur les épaules.
Voilà, et peut-être juste, mais la médecine prédictive, on en parle comme une entité, comme un ensemble, mais en fait il y a une discussion à avoir maladie par maladie. Et c'est ce que disait très bien Pascal Pujol. L'idée est d'intégrer la capacité de prise en charge en aval.
Mettons de côté les hypochondriaques, mais est-ce que tout le monde peut venir vous voir et dire « j'aimerais bien qu'on regarde si j'ai tel ou tel risque de développer telle ou telle chose », Pascal Pujol ?
Non, aujourd'hui, cette démarche est réservée dans deux situations. Soit vous avez une histoire familiale ou personnelle qui peut évoquer que vous avez un risque génétique dit actionnable. C'est le premier cas de figure. Le second se fait jour peu à peu, c'est ce qu'on appelle les découvertes secondaires. Vous rentrez dans une démarche médicale pour une raison particulière et la génétique va montrer que vous êtes exposé à un risque particulier. Ce peut être un risque pour vous, ce peut être un risque pour un enfant à venir. Et donc, dans ces deux cas, qui sont assez différents, soit on rentre pour une démarche médicale, soit on a une histoire qui évoque un risque familial. Mais là, la médecine dite prédictive peut offrir des solutions aujourd'hui très importantes en termes de santé.
Pour un enfant à venir, expliquez-nous.
Pour un enfant à venir, il y a deux types de maladies génétiques. Je suis désolé pour les auditeurs, c'est pas très technique, mais c'est facile à comprendre. Vous avez un premier type.
Auditeurs d'Inter sont formidables, donc allez-y.
Grâce à vous.
Allez-y.
Le premier type, c'est une maladie qui se transmet de génération en génération. Le diabète, l'hypercholestérolémie, certains cancers. Le deuxième type est plus inattendu. Il n'y a pas d'antécédents familiaux. Et c'est la conjonction de deux parents porteur d'un gène défaillant qui va malheureusement donner un risque très fort d'avoir un enfant atteint d'une maladie grave. Donc dans cette situation, il n'y a pas d'antécédents familiaux. Mais on peut être amené aujourd'hui, et ça va être une discussion très importante de ce qu'on appelle le préconceptionnel. On aura un débat grand public ce soir lors du congrès pour en parler, car c'est une question sociétale. Est-ce que on doit aujourd'hui prendre en compte cette possibilité qu'on a de détecter chez deux parents qui vont bien, la possibilité qu'ils aient d'avoir un enfant à naître porteur d'une maladie redoutable. Par exemple, la mucoviscidose. Par exemple, l'amyotrophie, qui est cette maladie emblématique du Téléthon.
Vous vous êtes déjà trouvé face à cette situation?
Absolument.
Et vous avez dit quoi aux parents? Alors
justement, il manque de repères aujourd'hui scientifiques et de recommandations en Europe. C'est la raison pour laquelle notre société a travaillé, le papier vient d'être accepté, à ce que le clinicien ou le biologiste qui va avoir devant lui un résultat de ce type puisse le rendre à condition que la personne ait, de façon autonome, donné son consentement et ait reçu une information. Oui. La condition sine qua non est que la personne qui réalise une analyse génétique puisse être informée en amont de cette possibilité et donne son accord.
Mais ces règles, Dominique Stoppa-Lyonnais, ces règles sont bricolées pour l'instant. Il n'y a pas
alors,
de doctrine.
Non. D'abord, je crois qu'il faut...
Le bricolage est une noble activité. Hein.
D'abord, oui. On n'avance pas à pas. Mais peut-être, revenons aujourd'hui. Le contexte actuel, c'est on est dans les travaux préparatoires de la révision de la loi. Ça a été tout le travail du comité consultatif national d'éthique qui a fait véritable ce qu'il appelle un exercice de démocratie sanitaire, c'est comme ça que c'est mentionné dans son rapport. Et l'idée est de voir, en 2018, s'il y a des modifications apportées au corpus de loi, je dirais. C'est un véritable corpus qui a été constitué depuis 1994.
Les lois de bioéthique.
Les lois de bioéthique, 1994, et qui ont été révisées en 2004, 2011.
Au fur et à mesure que la science avance, voilà. Et que les problèmes sont renouvelés.
Exactement. Et donc, concernant le diagnostic prénatal, dès 94, il y a eu un cadre qui a été construit, j'irai aussi prénatal, mais aussi l'ensemble des tests génétiques. Et depuis donc 24 ans, je dirais que ce contexte tient la route encore. Ce qui est très important, c'est que ces tests génétiques, y compris pour le diagnostic prénatal, soient faits chez des personnes informées et surtout qu'il y ait une qualité de la prédiction, c'est-à-dire qu'on soit assez certain que le test va permettre de savoir que le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable. Il faut rester sur ces grands principes de 94.
L'autre question terrifiante d'éthique, dès lors qu'on est avant la naissance et avant même la conception, c'est la question de l'eugénisme, disons-le simplement et brutalement. Comment cette question-là percute celle de la médecine prédictive? Dominique Stoppa-Lyonnais.
Sur l'eugénisme, évidemment, c'est une dérive contre laquelle il faut absolument se prémunir. Je dirais qu'il y a trois éléments. Il faut que les propositions diagnostic prénatal, d'interruption de grossesse ou diagnostic préimplantatoire ne soient que des propositions et qu'il n'y ait aucune pression de l'État, du système de santé. La deuxième chose est qu'il faut que à l'inverse, notre système de santé et de recherche continue son engagement dans la recherche pour ces maladies graves et incurables. Et puis le troisième, c'est la capacité de la société à accueillir les plus fragiles et les plus malades. Et ce sera là
les
garde-fous de dérive eugéniste.
C'est ça le problème majeur, en tout cas pour ce qui concerne les futurs enfants ou les enfants à naître, Pascal Pujol, la question éthique majeure.
Je rajouterai un quatrième critère à cette éthique. Nous parlons de maladies graves et incurables. Je rappellerai que la forme majeure de l'amyotrophie spinale infantile, je suis désolé pour ce terme très technique, mais cette maladie condamne l'enfant 9 fois sur 10 avant l'âge de 2 ans. Et donc je crois qu'il y a une marge très forte entre ce pourquoi on a raison d'avoir peur dans la dérive eugénique, c'est-à-dire arriver à des maladies qui ne soient pas incurables. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de la médecine, c'est de cette maladie que l'on parle. Il faut que les auditeurs soient bien conscients de ça. Hein. Et on discute de maladies gravissime pour laquelle nous n'avons pas de moyens à l'heure actuelle. Il faut poursuivre la recherche thérapeutique, bien évidemment, mais il faut aussi penser à la souffrance de ces enfants et de ces familles aujourd'hui.
Le business en plein développement, je disais que c'était un continent, la médecine prédictive, le business de l'ADN, c'est le Far West. Est-ce qu'il y a un risque économique, un risque de marchandisation de cet aspect-là du problème, d'après vous, Dominique Stoppa-Lyonnais?
Oui, il y a un risque et on le voit déjà. Donc, dans comment dire, il y a des propositions sur Internet de tests génétiques. Il y a deux types de tests qui sont proposés. Ceux qui sont le plus fréquemment proposés sont ce qu'on appelle des tests de susceptibilité. On est capable de repérer qu'il y a une augmentation de risque d'hypertension artérielle, de diabète, mais sont des augmentations finalement très modérées. Et on est dans une situation un peu particulière, c'est que d'un point de vue scientifique, l'augmentation de risque, elle est certaine. Mais l'utilité clinique de cette augmentation de risque est quasi nulle. Et c'est un paradoxe qui n'est pas forcément facile à comprendre pour les personnes qui sont directement sollicitées par Internet. Et puis, il y a un deuxième type de test qui est en train d'apparaître aussi directement sur Internet par ces sociétés. Et là, on est vraiment dans des tests, je dirais, de prédisposition, en ce sens que le risque d'apparition de telle ou telle maladie est assez importante. Et on a vu que la FDA, qui est l'agence, je dirais, américaine de contrôle de la santé, a autorisé des tests de prédisposition au cancer du sein. Mais ce sont des tests qui sont tronqués, qui en fait examinent trois altérations et qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc, soit ce sont des tests qui finalement ne sont pas suffisamment sensibles ou n'ont pas d'intérêt.
Il y a beaucoup d'auditeurs au Standard de France Inter. Il est 8h33. Je vais vous laisser dialoguer avec eux. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter, pour parler donc de cette médecine prédictive avec nos invités. Chantal, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bien, merci de prendre ma question et merci pour votre émission qui est extrêmement bien menée.
C'est gentil, merci.
Oui. Bon, ma question c'est que c'est bien cette nouvelle avancée vers la recherche génétique, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en fait la personne? Qu'est-ce qu'elle peut en faire? Moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. Ma mère a été atteinte d'un cancer du sein, ma belle-mère aussi. Et la génération qui vient, c'est-à-dire ma fille, on lui a refusé de faire cette recherche génétique. Alors, elle reste avec un risque, point d'interrogation, mais si jamais elle faisait cette recherche, qu'est-ce qu'elle en fait ?
Merci beaucoup Chantal pour votre intervention. Pascal Pujol.
Chantal, bonjour. Votre question est très pertinente. Elle pose deux questions. La première, c'est l'accès à l'information génétique. Assez curieusement, je ne connais pas plus votre histoire, mais je trouve que deux antécédents de cancer du sein dans une même famille, ça fait beaucoup et certainement assez pour regarder s'il y a une prédisposition génétique. Et la deuxième question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on en ferait? Alors, il faut que vous sachiez, Chantal, qu'aujourd'hui, la validation des actions médicales de dépistage et de prévention dans les syndromes familiaux de cancer du sein sont tout à fait pertinent. Et que la réduction de mortalité par cancer dans ces familles atteint 80%. C'est-à-dire que la seule prise en charge par le dépistage du cancer du sein, précoce bien sûr, avec des outils particuliers, et deuxièmement, une protection au niveau des ovaires qui sont à risque dans ces situations, permet de diminuer la mortalité du cancer de 80%. Donc ça peut être très utile. Je vous recommanderais...
On est d'autant plus vigilant, c'est
oui,
ça
quand on sait. On est d'autant plus vigilant, d'autant plus tôt, on personnalise la surveillance,
possible.
On va utiliser un examen qui s'appelle l'IRM, qui est réservé à ces situations, on fera une protection sur les ovaires, etc. On a des démarches aujourd'hui très codifiées, et surtout validées. Donc moi je vous engagerai à vous rapprocher de votre médecin ou d'une consultation spécialisée pour qu'on réexamine votre situation familiale.
Dominique Stoppa-Lyonnais, vous voulez répondre à Chantal sur tel ou tel point ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec les réponses, Chantal, que vous a faites, professeur le professeur Pujol. Peut-être juste pour que vous compreniez, parce que c'est la démarche aujourd'hui de ces tests génétiques, aujourd'hui, se fait en deux temps. Et en fait, dans un premier temps, c'est pas tant un test chez votre fille qu'il faut faire, mais c'est d'abord chez vous-même, pour essayer de comprendre l'origine de votre histoire personnelle et familiale. Et ensuite, si on trouve effectivement un facteur de risque, en l'occurrence une altération des gènes BRCA1 ou BRCA2, on pourra faire un test ciblé et très informatif chez votre fille.
Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis le papa d'une fille qui a été diagnostiquée en prénatal mosaïque Turner. Ça veut dire que l'ensemble de ses cellules n'avait pas les deux chromosomes X nécessaires. Et donc on a eu un énorme suivi. Donc c'est un témoignage plutôt pour expliquer à quel point le suivi peut être important et que ça a des conséquences en fait, ce suivi. Qui est fait donc à la fois en prénatal et en postnatal. Donc ma fille a été suivie, là, aujourd'hui elle a 11 ans. Et donc je voulais juste témoigner sur l'effet qu'avait ce suivi sur la famille, la vie de famille. C'était des moments très durs pour nous à vivre. Et que finalement, les fameux syndromes, elle ne les a jamais développés. Donc c'était pour témoigner que diagnostiquer c'est bien, c'est des probabilités. Au niveau de l'individu, les probabilités ne valent plus rien. Donc après, il faut accepter de vivre avec cette probabilité que quelque chose qui peut arriver et ne va pas forcément arriver.
Merci.
Pour ça, il faut vraiment l'intégrer.
Merci beaucoup Benjamin pour ce témoignage. Pascal Pujol, Dominique Stoppa-Lyonnais qui se lance.
Eh bien, d'abord, il y a une chose très importante que vous avez dit, Pascal, c'est après un diagnostic et de mosaïque, j'y reviendrai, c'est la prise en charge, c'est le suivi. C'est vraiment essentiel. Enfin, en fait, ces tests génétiques sont très précieux pour l'équipe médicale pour suivre. Ensuite, alors une première chose, le pire n'est jamais certain. C'est une espérance qui doit toujours
qu'on
doit toujours
avoir
en tête. Et aussi pour expliquer la situation, je pense un peu particulière. Enfin, c'est que votre fille a donc cette modification chromosomique, cette anomalie chromosomique, mais en mosaïque. Et en fait, l'étendue de la mosaïque est un facteur de variabilité de l'expression du syndrome de Turner. Et aujourd'hui, grâce à nos capacités extraordinaires de séquençage, on n'a pas évoqué le séquençage très haut débit. C'est une espèce de Big Bang qui est apparu il y a maintenant à peine quelques années, qui est dans nos laboratoires et qui nous permet d'avoir accès à notre génome et de repérer justement ces situations de mosaïque.
Pascal Pujol sur le témoignage de Benjamin. La question des probabilités, une fois que vous avez l'information, que vous la transmettez au patient, c'est sûr à 100% non? Quelle est ensuite la part de la liberté dans le déterminisme génétique?
Et Benjamin a tout à fait raison aujourd'hui d'insister là-dessus. Il y a des variabilités. Et c'est pour ça qu'en préambule, il nous paraît très important de commencer par ceux où on n'est pas certain, mais quasiment sûr. On a aujourd'hui des probabilités de maladies très graves qui sont très fortes. Le syndrome de Turner est une maladie qui ne rentre pas, pour moi, dans ses caractéristiques. D'autant plus que dans le cas de la fille de Benjamin, on a en plus une mosaïque qui dilue encore ce phénotype. Mais pour moi, la maladie de Turner n'est pas cette maladie grave et incurable dont on parlait. Et je pense qu'aujourd'hui, la médecine prédictive et le diagnostic prénatal doit vraiment se limiter à ces infections dont on est sûr ou quasiment sûr qu'elles vont arriver et pour lesquelles on est totalement démunis.
Retour au standard. Bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel.
Je
vous appelle parce que j'ai une fille qui a 4 ans maintenant qui a la cystinose, donc c'est une maladie génétique rare pour laquelle il existe un traitement à prendre à vie mais qui ne se guérit pas. Et en fait, quand j'ai voulu faire un deuxième enfant, j'ai fait un diagnostic prénatal. Et ça, j'ai eu de la chance parce que mon fils n'était pas atteint. Donc j'ai aujourd'hui un petit bébé de 8 mois. Mais c'était très difficile parce que justement, la cystinose, c'est pas une maladie dont on meurt jeune. C'est une maladie où il y a un traitement, mais c'est quand même une maladie extrêmement contraignante puisque ma fille est nourrie par sonde. Et pour ce type de maladie, j'ai donc fait un diagnostic prénatal. Donc j'avais la possibilité, si mon fils était atteint, de faire une interruption de grossesse, mais je trouve qu'il faudrait vraiment un accompagnement des parents, parce que voilà, c'est pas une maladie mortelle et donc la décision est extrêmement dure à prendre pour les parents.
Merci beaucoup Claire. Pascal Pujol.
En principe, cet accompagnement existe. Je voudrais signaler que justement, la question qu'on veut débattre dans le cadre de la révision des lois de bioéthique est celle du préconceptionnel, c'est-à-dire la possibilité d'éviter l'interruption de grossesse. Ça, c'est un élément quand même important de dire que on peut laisser. Il y a différentes possibilités pour les parents qui sont porteurs de ces maladies récessives d'avoir un enfant à naître qui n'est pas la pathologie. Ça peut être un don de gamètes, ça peut être un diagnostic préimplantatoire, etc. Mais en tout état de cause, le diagnostic préconceptionnel peut permettre d'éviter, madame, ce qui aurait pu malheureusement être proposé chez vous, c'est-à-dire cette terrible interruption de grossesse à cause d'une anomalie génétique.
Une question de Patrick pour terminer, qui est une vraie belle et grosse et importante question. Rapport entre médecine prédictive et questionnaire de santé des compagnies d'assurance. C'est Patrick donc qui la pose. On pourrait imaginer un lien naturel, disons, entre ces deux espaces d'information. Est-ce que vous voulez répondre, Dominique Stoppa-Lyonnais?
Alors, oui, c'est une des questions, comment dire, éthiques, mais je dirais plutôt déontologiques, que posent ces tests génétiques. Lors des travaux préparatoires de la loi, donc par le Comité national d'éthique, il y a eu, comme je le disais, un véritable exercice de démocratie sanitaire. Il y a eu 3500 contributions, il y a eu plus de 50 000 votes sur un certain nombre de questions. Et une des questions était la crainte, y a-t-il crainte d'utilisation, de discrimination selon les caractéristiques génétiques? Et la réponse des Français était... 96% des personnes disaient « oui, il y a une véritable crainte ». Donc vraiment, la question de Patrick est tout à fait fondée. Aujourd'hui, loi de bioéthique, dès 94, il est inscrit dans la loi l'incapacité, l'interdiction par les compagnies d'assurance privées d'avoir accès aux données génétiques. Après, malheureusement, faut pas être baigné dans l'angélisme. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, pour un prêt, demandent quels sont les examens que vous suivez, que vous avez. Et donc, une femme qui a une IRM dès l'âge de 30 ans,
au niveau de ma mère,
on sait qu'elle est à haut risque. Et donc, je pense qu'il faut encore travailler sur la question. Mais c'est une vraie préoccupation.
Merci à tous les deux et bonne réunion, bon congrès
pour la
médecine prédictive aujourd'hui et demain à Paris. C'est ouvert au public.
Au Cordelier, ce soir, ça sera ouvert.
Voilà, ouvert au public.
17h30 ou 18h.
Allez-y, merci. Pascal Pujol, merci. Dominique Stoppa-Lyonnais, merci également.
Merci.